Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Fréquence Mystère. Il est 15h et c'est l'heure du voyage. Voyage au fil des mots avec Dominique. Bonjour Dominique.
Bonjour Emeline. Bonjour à tous.
Qu'est-ce que tu nous as concocté de beau aujourd'hui?
Alors, vu qu'il y a 15 jours, je t'ai promis de faire un peu des choses un peu plus drôles, parce que c'est vrai que la dernière émission sur l'amour, c'est beau, mais c'est pas toujours forcément plein d'humour, c'est bien vrai. Qu'on a essayé de faire quelque chose de diversifié. Cette fois, j'ai eu envie de finir, oui, parce que bon, il faut quand même qu'on dise que je pense que c'est la dernière émission avant les vacances. Voilà. Parce qu'après on se retrouvera à la rentrée, donc ça
alors,
fait un petit peu.
Alors faut bien en profiter.
Je vais essayer, voilà.
Bien.
Donc j'ai essayé de prendre des histoires plutôt de chez nous, hein, et en l'occurrence vraiment d'Île-de-France. Donc ça peut pas être plus française que donc cette région là, avec des petites histoires, j'espère, drôles, hein, des anciennes, comment on va appeler ça? Des petits contes, hein, qui sont à l'origine de pas mal de croyances, comme d'habitude. Voilà. Donc c'est vrai que j'en ai préparé. Une qui s'appelle « Les trois aveugles de Compiègne ». Et c'est vrai que je pense que les auditeurs vont retrouver, parce que ce sont toutes des histoires connues par chacun, interprétées différemment certainement, parce que ce sont des choses qui se sont développées au cours des mois, au cours des années, se sont retransmises, ont eu des variantes. Alors, moi, celle que je vais proposer, ça sera cette version-là. Et puis après, on ira donc pareil avec une autre histoire qui pourra.
On va se faire une petite mise en ambiance musicale.
Yes.
Commence avec les trois aveugles de Compiègne. Alors, question d'écu, c'est pour...
C'est ça, voilà. C'est une histoire, voilà, avec l'argent qui va passer d'une main à l'autre, ou peut-être pas, justement, c'est le sujet. Trois aveugles s'en allaient sur la route qui mène de Senlis à Compiègne. Ils marchaient à la queue leu-leu, les deux derniers tenant un compagnon à l'épaule de la main gauche, et tous trois, la main droite, tendue au moindre bruit, signalant un passant. « La charité, s'il vous plaît. Ayez pitié de trois pauvres aveugles. » Hélas, ce jour-là, personne ne répondait à leur appel, si bien qu'ils commençaient à s'inquiéter, tant pour leur repas du soir que pour leur hébergement de la nuit. « Il ne me reste plus un quignon de pain dans la besace, » dit le premier. « Ni à moi, » fit le deuxième. Le troisième soupira, ce qui revenait à dire la même chose. « Nous allons être obligés de dormir dans le fossé, » reprit le premier. « C'est sûr, » approuva le deuxième. Et le troisième ajouta « Pourvu qu'il ne pleuve pas !» À ce moment passait sur la route un bourgeois de fière allure, l'escarcelle sans doute bien garnie. Alertés par les pas de son cheval, les trois aveugles reprirent d'une même voix leur complainte habituelle. « La charité, s'il vous plaît !»« Où allez-vous, mes braves ?» demanda le bourgeois. « Où va la route, noble passant ? En priant Dieu qu'elle s'arrête pour nous dans quelconque auberge offrant le gîte et le couvert. Nous ne sommes pas difficiles !» L'homme sourit. L'idée d'une bonne plaisanterie lui traversait l'esprit. « Allons, mes braves, » dit-il. « À 200 pas d'ici, vous trouverez une excellente hôtellerie. On y mange bien et on y dort de même. »« Hélas, noble seigneur, nous n'avons pas le premier sou pour payer un tel rêve. »« Qu'à cela ne tienne, tenez, voici un écu d'or. Faites-en bon usage. » Les trois aveugles s'exclamèrent de joie et remercièrent leur bienfaiteur, chacun croyant qu'un de ses compagnons avait reçu empoché l'écu, alors qu'en réalité, le bourgeois ne donnait rien à personne. Soyez bénis, généreux passants, et que Dieu vous réserve une belle place dans son royaume. Adieu, les braves !» Le cavalier piqua sa monture des éperons et s'écarta quelque peu, tandis que les aveugles continuaient à manifester leur gratitude, agitant leurs chapeaux troués tant qu'ils entendirent le galop du cheval sur la route. Ensuite, ils tinrent conseil. « Je propose, dit le premier, que nous suivions l'avis de notre bienfaiteur. Allons donc à cette hôtellerie qui semble vantée. » « D'accord, approuva le deuxième, j'ai justement grand faim. »« Moi aussi, acquiesça le troisième. » Et les voilà partis sans plus attendre, toujours à la queue leu-leu, mais marchant cette fois d'un pas plus guilleret. Sans qu'il ne se doute, le bourgeois les suivait de loin. Une compiégnoise rencontrée guida les trois hommes jusqu'à l'hôtellerie recherchée. Ils poussèrent la porte, les narines aussitôt agréablement chatouillées par les bonnes odeurs venant des cuisines. « Hola, hôtelier, nous avons faim et soif !» Impressionné par leur allure décidée, l'hôtelier s'empressa. Il connaissait par expérience que des mendiants plus riches, souvent qu'il n'y paraissait. Il les conduisait donc même à table, fit flamber la cheminée et servir du vin de soisson en attendant le repas à 5 servis comprenant des pâtés, une omelette gigantesque, un lièvre rôti, une tarte chaude... Les aveugles mangeaient et buvaient de si bon cœur qu'ils ne prêtèrent nulle attention à la présence, discrète d'ailleurs, du bourgeois qui dînait non loin d'eux, riant à l'avance des suites de l'histoire. Le ventre plein, les aveugles eurent la meilleure chambre de l'auberge. Ils y passèrent une excellente nuit. Le lendemain matin, frais et dispo, ils s'apprêtaient à quitter l'hôtellerie, une fois avalé un bon bol de soupe et un dernier verre de vin. Le bourgeois levé tôt, lui aussi, guettait dans un coin le résultat de sa farce. « Eh bien, dit l'hôtelier, cela vous fera en tout 12 sous d'or. »« Voilà un écu, dit fièrement le premier aveugle. N'oubliez pas de nous rendre la monnaie. » L'hôtelier tendit la main, attendant la pièce. Ne voyant rien venir, il demanda. « Et alors ?»« Payez donc, dit le premier aveugle à ses compagnons. « Mais je n'ai pas d'argent, répondit le deuxième. « Ni moi, fit le troisième. » « Comment cela ? » s'étrangla le premier. « Et la pièce ? Et l'écu ? Mais c'est à toi que le Seigneur l'a donné. »« Non, à toi ! Mais tu étais devant ! Mais je l'ai entendu derrière !» Ce fut un beau charivari d'exclamations diverses, une discussion à laquelle l'hôtelier mêla bientôt sa voix, hurlant qu'il ne voulait rien savoir et qu'il fallait le payer, ou bien gare, les aveugles se retrouveraient en prison, sans parler de la bonne bastonnade en avant-goût. Le bourgeois riait dans son coin comme un bienheureux. Lorsqu'il eut assez ri, il fit signe à l'hôtelier, lui murmura à l'oreille qu'il allait payer pour les aveugles. Calmé, l'homme laissa les trois aveugles partir. Ces derniers, fort désappointés, mais en même temps soulagés de se tirer sans dommage d'une méchante affaire dont ils ne portaient aucune responsabilité. « On a quand même bien mangé, dit le premier aveugle pour se consoler. « Oh, et bien bu !» renchérit le deuxième. « Et bien dormi !» ajouta le troisième. À la queue leu-leu, ils reprirent la route, la main tendue au moindre bruit. « La charité, s'il vous plaît, ayez pitié de 3 pauvres aveugles !» Pendant ce temps, le bourgeois réfléchissait. Il pensa que l'hôtelier s'était mal conduit envers les pauvres malheureux, les menaçant de prison pour seulement 12 sous. Il méritait une leçon. Il décida de la lui donner. « Combien vous dois-je, mon brave ? » demanda-t-il. « Comptez largement. »« Monsieur, ce sera donc 6 sous pour vous, plus les 12 sous des aveugles, soit 18 sous au total. »« Très bien. Dites-moi, avez-vous confiance en votre curé ?»«
Mon curé ?»«
Oui, bien sûr, mais pourquoi donc ?»« Parce que c'est lui qui va vous payer. Il me doit de l'argent. »«
Mais... »«
Ne vous inquiétez pas. Accompagnez-moi à l'église. Nous y réglerons cette affaire sur le champ. » L'un suivant l'autre, ils allèrent donc à l'église où le curé allait commencer à dire la messe. « Attendez-moi un instant, fit le bourgeois. » Il rejoignit le prêtre qui s'inclina devant cet homme de belle apparence. L'autre lui prit familièrement le bras et lui glissa à l'oreille. « Monsieur le curé, je suis un voyageur de passage. J'ai dormi cette nuit chez l'hôtelier que vous voyez là près de la porte.
Ben, »« Je le connais, dit le curé. C'est un de mes paroissiens. »
« Je sais, un bien brave homme, mais je le crois souffrant.
Cette nuit, il était fort agité et nous a tous empêchés de dormir. Ce matin, il a voulu que je l'accompagne ici. Il a honte de son esprit dérangé et voudrait que vous lisiez l'évangile sur sa tête pour guérir. Il est prêt à vous payer 18 sous pour cela.
18 sous ? Oh !
Parfait, parfait. Je m'occupe de lui dès la fin de la messe. Merci, monsieur le curé. Mais voudriez-vous le prévenir de notre accord ? Le curé se précipita vers son paroissien. « Ne bougez pas, mon ami, je dis la messe et je réglerai votre affaire aussitôt après. »« Vous êtes donc d'accord, monsieur le curé ?»« Mais bien entendu, je reviens. Priez en attendant, cela fait du bien. » Et il s'éloigna sans plus attendre, courant à son office. « Quant à moi, dit le bourgeois, il me faut partir à présent, on m'attend. Tout est donc en ordre. » « Tout est en ordre, répondit l'hôtelier en faisant sa révérence. « Bonne route, monseigneur, bonne route, et merci beaucoup. » Le bourgeois retrouva son cheval et s'en fut, tout heureux de sa malice qui lui rappelait le bon temps de sa jeunesse étudiante. Pendant ce temps, la messe se disait. Lorsqu'elle fut terminée, le curé alla trouver l'hôtelier. « Voilà qui est fait, dit-il. Allez, à votre tour. Agenouillez-vous maintenant. »
Mais je suis pas venu pour cela, répondit l'homme, assez étonné.
Allons, 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 faites ce que je vous dis. Vous verrez, tout ira mieux ensuite.
Mais laissez-moi, monsieur le curé, et payez-moi plutôt mes 18 sous.
Ça y est, pensa le prêtre. Il divague. Voilà une crise qu'il reprend. Allez, soyons fermes. À genoux, cria-t-il. Et il voulut forcer l'hôtelier, le prit aux épaules. L'autre résista, se débattit, réclamant toujours son argent. Il fallut l'aide d'autres paroissiens pour qu'il se tienne enfin tranquille, l'étole au cou, le missel sur la tête. Le prêtre dit l'évangile, l'aspergea d'eau bénite, et l'hôtelier finit par comprendre qu'il avait été joué. C'est ainsi que non seulement il perdit 18 sous, dus par les aveugles et le bourgeois, mais 18 autres sous encore pour le sermon, car les curés ont toujours le dernier mot.
Et dans la même veine, un petit peu toujours avec une histoire d'argent, justement, celle-ci s'intitule « Qui paiera ?»
La pluie tombait sur les tables chaudes. La vieille raconta cette histoire pour réveiller un peu ceux qui s'endormaient. Il était une fois deux soldats de passage par chez nous. Ils avaient faim et soif en entrant dans l'auberge de la mère Antoinette. Là, ils s'installèrent à l'aise en commandant le meilleur. Ils mangèrent et burent longtemps. À la fin, il fallut payer. Seulement, il n'avait pas le sou. Loin d'avouer la chose, il fit assaut de politesse. « C'est moi qui paye !» dit le premier.
« Ah non, 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 c'est moi !» dit le deuxième. « Tu as déjà payé la dernière fois !»«
Mais non, ta mauvaise mémoire, c'est mon tour !» La mère Antoinette les écoutait se disputer, un grand sourire aux lèvres. Elle sentait déjà dans le creux de sa main la chaleur de l'argent qu'il allait lui donner l'un ou l'autre.
« Tiens !» cria le premier soldat. J'ai une idée pour nous départager.
Bah laquelle ?
Le sort décidera pour nous.
On tire à courte paille ?
Mais non, il y a une meilleure façon.
Et le premier soldat se tourna vers l'aubergiste.
Vous allez nous aider, la mère, si vous le voulez bien. On va jouer à Colin Maillard. C'est vous qui porterez le bandeau. Celui que vous attraperez en premier paiera.
Bah, d'accord, puisque ça vous arrange. Les soldats écartèrent tables et chaises, mirent le mouchoir sur les yeux de l'aubergiste et la firent tourner. Après quoi, tandis qu'Antoinette se promenait dans la salle les bras tendus, eux, ils ramassaient leurs sacs et se sauvaient sans bruit, au plus vite. Lorsque la mère finit par ôter son mouchoir, ils étaient déjà loin. En revanche, c'est son mari qu'elle vit arriver alors, lui demandant à quoi elle jouait au lieu de travailler. Elle lui raconta sa mésaventure. Mais la suite de l'histoire ne nous regarde pas.
Oh,
vieille rusée?
Oui, tout à fait. Ah oui, 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 tu vas voir comment elle va aider, si je puis dire, une mal mariée, entre guillemets. Bon, c'est pas beau ce que je viens de dire, mais c'est pourtant, ça existe, hein, ça existe.
Ça existe.
Oui, ça existe. Donc, cette histoire, effectivement, s'appelle la vieille rusée. Et on s'en suivra avec une petite histoire dans la même veine de Téléprix qui croyait prendre et qui va s'appeler Grégoire. Donc, on attaque avec la vieille rusée. Il était un jeune homme à Compiègne qui aimait une dame mariée à un vieux jaloux. Le jeune avait voulu l'épouser, lui, mais son père s'y était opposé pour quantité de ses bonnes raisons qui font parfois bien du mal. Donc, la dame était mariée, sans cesse surveillée par le mari, lequel n'hésitait pas à l'enfermer lorsqu'il avait affaire dehors longtemps. Ou alors, il la faisait surveiller par les voisines qui lui rendaient compte de ses faits et gestes. Le jeune ne savait plus comment rencontrer sa belle, ne serait-ce qu'une fois. Il se désespérait. Par bonheur, il eut l'idée de s'adresser à une vieille rusée, laquelle lui promit son aide, moyennant quelques dédommagements. Leur accord conclu, la vieille s'en fut rendre visite à la dame, un jour que son mari était absent, sous prétexte de lui emprunter une louche. Elle lui parla du jeune homme, la dame rougit, pleura, et finit par avouer qu'elle aussi aimerait bien le revoir en souvenir des jours anciens. « Laissez-moi faire, » dit la vieille dame. Bien qu'apeurée, la dame accepta. Lorsqu'elle eut le dos tourné, la vieille glissa sous la courte pointe du lit conjugal un surcot, c'est-à-dire une veste de l'amoureux, qu'elle avait trouée au préalable et dans lequel elle avait piqué une aiguille enfilée. Après quoi, elle prit congé et s'en alla sous l'œil curieux des voisines, brandissant sa louche, évidemment. Ce qui devait arriver arriva. Le soir venu, le mari trouva le vêtement dans son lit. De caractère irascible, il devint comme un fou furieux, accusa son épouse, ne put rien en tirer, et pour cause. À la fin, il la jeta dehors, se croyant déshonorée et ne pouvant le supporter. La dame se retrouva à la rue, affolée, désespérée. Mais la vieille l'attendait là depuis longtemps, se doutant de la façon dont le mari réagirait en trouvant le surcot. Elle mena la belle chez elle, où l'attendait le jeune homme, lequel sut très bien la consoler. Le lendemain matin, le jouvenceau parti, la vieille conduisit sa protégée à l'abbaye de Sainte-Corneille où elle la laissa en prière devant la statue de la Sainte Vierge. « Ne bougez surtout pas de là, » lui dit-elle. « Vous priez depuis hier soir, continuez encore. » La dame promit. La vieille fut trouver le mari. Celui-ci s'était un petit peu calmé durant la nuit. Il venait de parler aux voisines qui ne savaient rien du comportement, à leur grand regret d'ailleurs. Sur ce, la vieille arriva, couvrit le mari de reproches. « Votre femme est à l'abbaye, je l'ai trouvée là. Elle prie, elle pleure. Elle ne comprend pas pourquoi vous l'avez accusée hier. » « Mais j'avais quand même une bonne raison de l'accuser. » « Je ne veux pas la connaître. Mais quoi qu'il en soit, elle était innocente. J'en suis persuadée, rien qu'à son attitude. » Elle en dit tant que le mari prit pitié. Lorsque la vieille partit, il alla rechercher sa femme à l'abbaye. Ils rentrèrent ensemble dans leur maison, mais le mari gardait au fond du cœur des soupçons et des doutes. « Bon, je dois aller à mes affaires, où je dit-il. » Il sortit, la porte fermée à clé, les voisines prévenues d'avoir à surveiller. « Oh !» Il n'avait pas fait trois pas dans la rue qu'il rencontrait à nouveau la vieille, l'air ennuyé, criant qu'il lui faudrait payer sa perte. « Mais que vous arrive-t-il ? » demanda le vieux mari. « Oh, quel malheur ! Figurez-vous qu'on m'avait donné une réparation à faire, un trou dans un surcot. Je ne sais plus où j'ai mis le vêtement. Oh, ma pauvre tête ! » « Attendez. Êtes-vous venu hier à mon domicile ? » ?»« Que je réfléchisse. » »« Bah oui, je me souviens. J'avais besoin d'un ustensile de cuisine. » « Ne bougez pas. » Le vieux mari retourna sur ses pas, courut jusqu'à chez lui plus tôt qu'il ne marcha. Il prit le surcot, vit le trou, l'aiguille et le fil, et se prisa dehors rejoindre la vieille. « Voilà votre vêtement » cria-t-il plein de joie. « Vous l'aviez oublié chez moi. Ma femme est innocente. « Je l'ai toujours pensé, » dit la vieille rusée. Voilà, un mari qui fait des choses qu'il ne faut pas. Eh bien, il a ce qu'il a semé.
Voilà.
C'est que mon opinion, mais c'est le mien quand même. Alors, on va continuer avec une toute petite histoire qui s'appelle effectivement Grégoire. On est toujours dans, dans les gens qui se croient plus malins que les autres et qui veulent les berner.
T'es les prix
qui croyaient prendre. Le vieux n'était pas venu ce soir-là. Certains s'inquiétèrent. On les rassura, Grégoire allait bien. À la fin, il fallait s'y attendre, on ne parlait plus que de lui. De fil en aiguille, quelqu'un raconta alors. Grégoire, dans le temps, il était jardinier, un bon, travaillant dur et connaissant son affaire, toujours prêt à rendre service et malin avec ça. Son seul défaut, un peu de vantardise et le désir d'avoir toujours raison. Un jour, son maître, un noble comte, décida de se moquer de lui. Il le fit chercher. « Grégoire, dit-il, je fais venir de Paris un sachet de graines précieuses. Savez-vous ce que c'est ?» Et il montra dans un papier des œufs de hareng étalés. « Bien sûr que je connais, monsieur le comte, » et répondit Grégoire. Le jardinier bredouilla là-dessus un nom latin, ajoutant que ces graines-là, dans une bonne terre, elles poussaient vite et bien. « Eh bien, parfait, dit le maître, prenez, semez, et puis prévenez-moi dès qu'elles auront germé. » « À vos ordres, monsieur le comte !» Grégoire s'en fut, tandis que l'autre y est de bon cœur dans ses moustaches. « C'est pas de mal la veille, » pensa-t-il. Quelques jours plus tard, le comte rencontra son jardinier. « À propos, mon ami, ces graines que je vous ai de confier. Ouh, elles commencent à lever, monsieur le comte. Je les arrose régulièrement. Tiens donc ! Eh bien, moi, je serais bien curieux de voir ça. Si, monsieur le comte, veut bien me suivre ?» Ensemble, les deux hommes se rendirent à l'extrémité du potager. « C'est ici. Je ne vois rien. Baissez-vous, monsieur le comte, vous verrez mieux. » Le comte se baissa, ajusta ses lorgnons sur ses yeux et aperçut une rangée de harengs sorts bien droits, pointant leur tête au-dessus de la terre. Lorsque le comte se redressa, il ne riait plus. C'est Grégoire qui souriait d'un grand sourire candide.
Côté de la ruse avec ce petit conte.
Oui, tout à fait. C'est l'histoire de trois frères, des schnappants, on va appeler ça comme ça, c'est vrai, des petits vauriens. Enfin, mais tous les trois se lancent un petit peu toujours un défi. Quel est le meilleur des trois, le meilleur prince des voleurs? Voici l'histoire qui va l'illustrer. Il y avait, voilà longtemps, trois frères allant, les trois plus rusés et voleurs de toute la région. L'un s'appelait Guillaume, le seul à être marié, les autres Bernard et Maubert. Leur père avait été pendu pour vol, mais cela n'avait point assagi les enfants. Pourtant Guillaume aurait bien aimé vivre tranquillement avec sa femme de leur cabane, mais il ne savait comment dire la chose à ses frères. Un jour, qu'il passait dans la forêt, Bernard désigna un nid de pie au sommet d'un arbre, où une femelle couvait ses œufs. « Je vous parie, dit-il, qu'un de vous ne saurait aller voler les œufs sans déranger l'oiseau. » « Mais cela est à la portée du plus maladroit de nos confrères voleurs !» répliqua Maubert. « Regardez !» Et le voilà qui entreprend l'escalade de l'arbre, sans un bruit, sans un mouvement brusque, sans faire craquer une seule branche. Arrivé à la hauteur du nid, Il gratta la base de l'ongle jusqu'à y creuser un trou pour lequel les œufs glissèrent dans sa main. Il n'eut plus alors qu'à redescendre en prenant toujours les mêmes précautions. « Pas plus difficile que ça, » dit-il avec fierté. « Regardez, aucun œuf n'est seulement fêlé. »« Bravo, » s'exclama Bernard, « tu as réussi. » Mais en revanche, je suis certain que tu ne pourrais aller remettre les œufs dans le nid sans que la pine s'envole. Mais si, je saurais. En ce cas, je te proclamerai le prince des voleurs sans aucune hésitation. Tu vas voir. Maubert recommença alors son escalade sans remarquer que son frère le suivait. Tandis qu'il replaçait habilement les œufs en place, un par un, en les poussant du doigt par le trou qu'il avait fait, Bernard lui retirait sa culotte. À nouveau, Maubert descendit de l'arbre, content de lui. « Eh, voilà !» dit-il simplement, s'attendant aux félicitations de ses frères. Mais Bernard s'exclama en guise de plaisanterie. « Je ne te crois pas, je suis sûr que tu as mis les œufs dans ta poche. Mes poches sont vides, regarde-toi-même » Maubert, joignant le geste à la parole, voulut tirer les doublures de ses poches et resta stupéfait en voyant sa culotte disparue. Son frère la sortit de derrière son dos et l'agita en riant. Alors, il avoua sa défaite. « Bah, c'est toi le prince des voleurs !»« Mais non, allez, tu mérites aussi ce titre !» Pendant ce temps, Guillaume ne disait rien. Il n'avait point participé aux exploits de ses frères et pensa le moment venu de leur annoncer. « Oh, vous êtes trop habile pour moi. Je ne vous arrive pas à la cheville comme voleur. Le mieux est que je vous quitte !» Les frères protestèrent, essayèrent de le retenir, lui rappelant qu'ils avaient toujours volé ensemble, unis comme les doigts de la main. Rien n'y fit. Guillaume leur dit adieu et s'en alla. Les jours passèrent. Bernard et Maubert ne pouvaient s'habituer au départ de leur frère. « L'ingrat !» disait Bernard. « Nous avons toujours partagé jusqu'ici. Eh ben voilà ce qu'apporte le mariage !» remarqua Maubert en soupirant. « Oh, je n'y tiens plus !» reprit Bernard. « Je vais aller le voir !» Il partit sur le champ jusqu'à la forêt de Lan, où Guillaume habitait dans une cabane. C'est sa belle-sœur qui le reçut, une petite femme craintive, en train de filer sa quenouille au coin de la cheminée. « Guillaume n'est pas là, » dit-elle. « Je ne sais quand il rentrera. »« Tant pis, je reviendrai. Au revoir, Jeannette. »«
Au revoir. »
Bernard quitta la cabane, non sans avoir remarqué, dans un coin, un gros morceau de cochon dans une marmite. « Tu te rends compte ?» s'indigna-t-il plus tard. « Notre frère a tué le cochon et ne nous a même pas invités. »« Oh, c'est insupportable !» approuva Maubert. Guillaume connaissait bien les siens. Aussi s'alarma-t-il en apprenant que sa femme avait eu la visite de Bernard. « Oh, je suis sûr qu'il a vu le cochon. Sûr aussi qu'avec l'aide de Maubert, il va chercher à le voler au plus tôt. Oh, quel malheur !»«
Pourquoi te lamenter ?» dit Jeannette. « Cachons-le, ce cochon, cette nuit. Demain, on verra bien. »«
Allez, tu as raison. » Guillaume fit un trou sous la huche à pain et il y mit le cochon et les deux époux allèrent se coucher, la porte de la maison fermée avec soin. Tandis qu'ils dormaient, les deux frères arrivèrent, comme prévu. Bernard fit un trou dans le mur, pénétra dans la chambre, qu'il fouilla malgré l'obscurité, mais sans trouver la bonne viande. Il dut se cacher sous le lit, car Guillaume s'était mis à remuer et se réveillait, réveillant du même coup sa femme.
« J'ai cru entendre du bruit, » dit Guillaume en bâillant. « C'est peut-être dans la grange, je vais voir. »
Il sortit, armé de sa hache. Bernard attendit un instant, puis sortit de sous le lit où Jeannette se rendormait déjà. Imitant la voix du mari à s'y méprendre, il l'interpella.
« Ça va, tout est tranquille, mais je vais pourtant vérifier si le cochon est toujours en place. Où l'avons-nous caché déjà ?»«
Mais enfin, mon mari !» grogna Jeannette tout engourdie de sommeil. « C'est toi-même qui l'as mis dans un trou sous la huche. »«
Ah oui, bien sûr, oui, oui. Dors, ma femme, allez, dors, dors, tout va bien. »
Et Bernard se précipita sous la huche, en tira le cochon enveloppé de linge et n'eut que le temps de fuir en l'emportant par le trou du mur, car Guillaume revenait déjà de sa ronde.
« Ça va, tout est tranquille. »«
Tu me l'as déjà dit, mon mari !» murmura Jeannette à nouveau réveillée.
« Comment ?» s'étonna Guillaume.
« Mais tu perds la tête !» reprit la femme.
Oh, « Ne pas savoir où tu as coché, toi-même, le cochon ?»«
Mais que dis-tu là ?»« Allez, laisse-moi dormir !»
Mais Guillaume, frappé d'un pressentiment, courut regarder sous la huche et vit que le cochon avait disparu. Le verrou de la porte n'était point tiré. Hélas, un rayon de lune entra dans la chambre, découvrant le trou dans le mur.
Eh oui, pensa Guillaume avec colère. Mes frères sont bien les princes des voleurs. À moi de montrer que je suis plus malin qu'eux. Dans la forêt profonde et sombre, galopait Bernard, portant le cochon sur l'épaule. Il croyait que Maubert l'avait dépassé. Mais soudain, il entendit sa voix à son oreille. « Oh, tu dois être fatigué. Laisse-moi un peu ton fardeau. » Bernard accepta avec soulagement et put ainsi aller plus vite. Bientôt, à sa grande surprise, il entrevit une ombre courant devant lui. Il la rattrapa. C'était Maubert. « Mais qu'as-tu fait du cochon ? » demanda-t-il d'une voix haletante. « Mais c'est toi qui l'avais ?» Bernard comprit de suite. « Guillaume s'est joué de moi, cria-t-il. Rattrapons-le, il n'aura pas le dernier mot. » Ils coururent et le rattrapèrent sans se faire voir, tandis que leur frère arrivait juste au seuil de sa maison, tout essoufflé. Guillaume allait frapper à sa porte, mais il pensa à Jeannette endormie et ne voulut pas la réveiller à nouveau. Il posa un instant son cochon près de lui, il fouilla ses poches afin d'y attraper la clé. Eh bien, cet instant suffit au voleur pour subtiliser la viande. La clé retrouvée, la porte ouverte, Guillaume voulut reprendre le cochon. Celui-ci avait disparu et il ne put que murmurer tout dépité. Les coquins ! Il allait s'avouer vaincu devant l'adresse de ses frères, déjà évanouis dans les bois. Un sursaut d'énergie lui fit encore une fois relever le défi. Heureux et triomphants, Maubert et Bernard couraient côte à côte parmi les arbres, portant le cochon repris à leur frère par un miracle d'adresse et de rapidité. Soudain, ils s'immobilisèrent, comme paralysés de stupeur et d'effroi. À la haute branche d'un chêne se balançait un pendu en chemise. Une voix gémit, et ils reconnurent avec effarement celle de leur père, mort pourtant depuis bien longtemps. « Mes enfants, vous me faites honte, se voler ainsi entre frères, quelle pitié! Allons, vous serez pendus comme moi !» Bernard et Maubert ne purent résister. Abandonnant le cochon, ils s'enfuirent épouvantés. Alors, Guillaume descendit de son arbre, se rhabilla et rentra chez lui avec le cochon. Il finit la nuit, le morceau de viande dans son lit, placé entre lui et Jeannette pour plus de sécurité. Le lendemain matin, il reboucha son mur abîmé tout en réfléchissant. « Nous allons manger le cochon aujourd'hui, décida-t-il. Comme ça, nous serons tous tranquilles. » Sa femme installa une grosse marmite sur le feu, découpa le cochon et le mit à cuire. Guillaume regardait la chose d'un air réjoui. Tout à coup, il vit une longue branche pointue descendre de la cheminée, piquer un morceau de viande dans le récipient et remonter avec lenteur. Il éclata alors de rire et commanda vaincu. « Jeannette, mes frères sont sur le toit. Va leur dire que je les invite à manger. Autrement, cette histoire n'aura jamais de fin, puisque nous sommes tous les trois les princes des voleurs. »
Hey, tu nous rajoutes une petite histoire.
Oui, je me fais plaisir, parce qu'après je vais être un moment sans vous avoir, oh, oui, donc vous allez me manquer.
Allez.
Donc ça s'appelle, c'est toujours dans la même veine, de qui se moque-t-on ? Les marchands trop malins. Il fait chaud, l'étape est longue. Les deux marchands auvergnats sont encore loin de Beaumont, où se tient le marché. Oh, nous n'arriverons jamais à temps, dit le premier. « Je n'y peux rien, » réplique le deuxième. « Au lieu de parler, relève le sac de ton côté. J'ai plus que ma part, moi. » L'autre proteste, mais tire un peu sur son bras. C'est que les deux marchands portent ensemble un sac empli de marchandises qui semble lourd, à voir leur visage crispé, leur silhouette pliée et leur pas hésitant. Ils se taisent, reprennent leur marche, une main tenant le sac et l'autre le bâton sur lequel ils s'appuient. Le temps passe. Il fait toujours aussi chaud. Le chemin semble interminable. Tout à coup, ils entendent derrière eux un bruit. C'est seulement un homme qui va, bien vêtu, l'allure fière. L'homme les dépasse avec un petit salut qui lui rendent machinalement. L'homme est devant eux maintenant. Ils se regardent, ils ont même instant la même pensée. Lâchant leur fardeau, ils s'élancent, ragaillardis, le bâton au lever, ils crient « Hola !»
Hâte-toi !»
L'homme se tourne. « Que me voulez-vous ? »
Il l'empoigne. « Tu vas le voir !»
Il l'entraîne jusqu'au sac à terre.
« Ramasse-le » crie-t-il. « Tu vas le porter à notre place, chacun son tour !»
L'homme se rebiffe, mais ils agitent leurs armes.
« Dépêche-toi, sinon gare !»
L'homme ne peut faire qu'autrement qu'obéir. Lorsqu'il a le sac sur le dos, les marchands le pressent.
« Allons, allons, marche plus vite, allez, sans faiblir !»
L'homme est fort. Réfrénant sa colère, il avance, portant le lourd fardeau. Les marchands crient, contents de leur idée, se moquant de leur victime. Ils arrivent ainsi à Beaumont-sur-Oise, sur la place du marché, il est midi.
« Ça va, » disent les Auvergnats, « tu peux partir à présent.
» Il rit toujours de la bonne farce. L'homme leur jette un drôle de regard, pose le sac à terre et s'en va sans un mot.
« C'est pas tout, » dit le premier marchand. « Allez, on déballe la marchandise. »
Ils s'empressent. Mais ils n'ont pas fini que déjà de lourdes pattes s'abattent sur leurs épaules, tandis qu'une rude voix crie à leurs oreilles.
« Debout, suivez-nous !»
Mais que se passe-t-il ? Ce sont les gardes, il faut obéir.
Mais où nous menez-vous ?
Le seigneur de la ville veut vous voir.
Le seigneur de la ville ?
Le voici. Ils le reconnaissent et pâlissent. C'est, bien sûr, l'homme de bonne mine rencontré sur le chemin et qui transporta leur sac de force.
Qu'on les pende, dit le seigneur simplement.
Ce qui fut fait dès qu'on acheva de dresser la potence. Un spectateur tira la moralité de cette histoire en déclarant « Ville de Beaumont, ville de malheur, arrivée à midi, pendue à une heure. »
Et on enchaîne avec deux poèmes de Clarisse de Florian.
Oui, c'est bien, les auditeurs ont l'habitude que je cite cet auteur, je l'adore. C'est vrai qu'il a toujours des mémoires, des petites histoires qui finalement ont une morale qui me plaît énormément. La première s'appelle « L'enfant et le miroir ». Un enfant élevé dans un pauvre village revint chez ses parents et fut surpris d'y voir un miroir. D'abord, il aima son image, et puis, par un travers bien digne d'un enfant, et même d'un être plus grand, il veut outrager ce qu'il aime, lui fait une grimace, et le miroir la rend. Alors son dépit est extrême, il lui montre un point menaçant, il se voit menacé de même. Notre marmot fâché s'en vient, en frémissant, battre cette image insolente. Il se fait mal aux mains, sa colère en augmente. Et, furieux, au désespoir, le voilà devant ce miroir, criant, pleurant, frappant la glace. Sa mère, qui survient, le console, l'embrasse, tarit ses pleurs et doucement lui dit « N'as-tu pas commencé par faire la grimace à ce méchant enfant qui cause ton dépit ?»«
Oui. »
Alors, regarde à présent. Tu souris ? Il sourit. Tu tends vers lui les bras ? Il te les tend de même. Tu n'es plus en colère ? Il ne se fâche plus. De la société, tu vois ici l'emblème. Le bien, le mal, nous sont rendus.
J'aime bien. À méditer. Et la deuxième s'appelle « Les deux jardiniers ». Donc là, on est plus dans la veine, effectivement, de... Bah, celui qui rêve et celui qui agit, quoi. Il y a deux attitudes devant la vie de tous les jours. Quelle est la position? Quelle position adopter? Voilà. Mais chacun est libre de choisir, effectivement, la vie qu'il veut. Et les deux jardiniers, voilà, en illustrent un peu le thème.
Deux frères jardiniers avaient par héritage un jardin dont chacun cultivait la moitié. Liés d'une étroite amitié, ensemble, ils faisaient leur ménage. L'un d'eux, appelé Jean, bel esprit, beau parleur, se croyait un très grand docteur. Et Monsieur Jean passait sa vie à lire l'almanach, à regarder le temps et la girouette et les vents. Bientôt, donnant l'essor à son rare génie, il voulut découvrir comment d'un pois tout seul des milliers de pois peuvent sortir si vite
Pourquoi la graine du tilleul qui produit un grand arbre est pourtant plus petite que la fève qui meurt à 2 pieds de terrain? Enfin, par quel secret mystère, cette fève qu'on sème au hasard sur la terre sait se retourner dans son sein, place en bas sa racine et pousse en haut sa tige? Tandis qu'il rêve et qu'il s'afflige de ne point pénétrer ses importants secrets, il n'arrose point son marais. Ses épinards et sa laitue sèchent sur pied, le vent du nord lui tue ses figuiers qu'il ne couvre pas. Point de fruits au marché, point d'argent dans la bourse. Et le pauvre docteur, avec ses almanachs, n'a que son frère pour ressource. Celui-ci, dès le grand matin, travaillait en chantant quelques joyeux refrains, bêchait, arrosait tout du pêcher à l'oseille. Sur ce qu'il ignorait sans vouloir discourir, il semait bonnement son pouvoir recueillir. Aussi, dans son terrain, tout venait à merveille. Il avait des écus, des fruits et du plaisir. Ce fut lui qui nourrit son frère. Et quand Monsieur Jean, tout surpris, s'en vint lui demander comment il savait faire, « Mon ami, lui dit-il, voici tout le mystère. Je travaille et tu réfléchis. Lequel rapporte davantage? Tu te tourmentes, je jouis. Qui de nous deux est le plus sage ?» À méditer aussi.
Celui qui rêve est celui qui agit.
Tout à fait, tout à fait. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette dernière émission de la saison vous aura plu, chers auditeurs. Moi, en tout cas, je suis venue, je pense que vous avez passé également vendredi une très belle journée parce que justement l'antenne était ouverte à toutes les associations qui participent à Fréquence Mistral, aussi bien les hommes politiques que les artistes. Voilà. Moi, je suis venue modestement lire une petite histoire de ma région et j'ai oublié peut-être, ou parce que pris dans cette atmosphère, et peut-être pas l'habitude d'être interviewée non plus, j'ai oublié de remercier Fréquence Mistral qui donne cette possibilité à des gens lambda de faire participer, de partager
une passion,
voilà, parce que sans se poser la question, est-ce qu'elle a un seul diplôme, ce qu'on rencontre souvent, parce que nous autres artistes, si je peux appeler artistes, parce que bon, c'est vrai que j'ai d'autres cordes à mon arc, il est très difficile de trouver des scènes ouvertes, des scènes où on nous accepte, parce que justement, ben c'est dur et que on n'a pas forcément, on n'a qu'une passion et on le fait avec passion, mais souvent ça ne suffit pas. Fréquence Mistral ne s'est pas se poser de problème. Depuis 2 ans, je partage l'antenne avec vous. J'en suis ravie. J'espère que vous aussi. J'espère aussi également vous retrouver à la rentrée sur la
nous
même
aussi,
antenne, hein,
parce que compte.
Ça me plaît beaucoup. Et puis même si je déménage, je vais essayer de faire les kilomètres et de venir vous revoir et de partager à nouveau des textes.
On trouvera une solution.
Une solution, ouais, c'est gentil.
Pour pouvoir passer.
En tout cas, merci à tous. Merci de votre fidélité. Merci de votre écoute. Merci encore à Fréquence Mistral. Et Emeline, merci.
Merci Dominique, alors bonnes vacances.
Ouais, on va essayer. Moi je savais être studieux un petit peu, mais c'est des vacances quand même, il y a le soleil, c'est des vacances.
Voilà, tant qu'il y a le soleil, c'est des vacances. Donc à très bientôt.
Allez, je vous embrasse tous.
Merci encore.